Jean chapitre 16, et on va lire les versets 7, non pas 7, 5, à partir de 5. À partir du verset 5, Évangile de Jean chapitre 16. Maintenant, c'est Jésus qui parle. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas sur vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, le Consolateur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Prions un instant. Père, nous te bénissons parce que, Seigneur, tu ne nous as pas laissés orphelins, tu es parti, et c'est vrai que la tristesse a rempli le cœur des disciples. Et nous aurions été pareils, Seigneur, dans cette tristesse. Mais Seigneur, tu as promis d'envoyer le Consolateur et tu l'as fait. Il a été présent, il a été au rendez-vous à la Pentecôte. Et Seigneur, il a accompli les promesses que tu as faites aux disciples, Seigneur. Et ce matin, le Saint-Esprit est là et nous te remercions de ce qu'il est en nous, au milieu de nous, de ce qu'il est partout, Seigneur, pour proclamer ce qui est à toi et ce qui est au Père, et qui est à toi et qui nous le donne, Seigneur. Merci de nous encourager ce matin, de nous fortifier au nom de Jésus. Amen. Comme je vous l'ai dit au début du culte, pour ceux qui étaient là, que c'est l'anniversaire de l'Église. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'Église, puisque l'Église a commencé à la Pentecôte. C'est le début de l'Église. Et cette Église, elle a été réveillée à la Pentecôte, mais régulièrement, l'Église s'endort. Vous aimez bien dormir ? Moi, à un moment donné, j'étais un peu énervé de voir qu'il fallait dormir autant de temps et que je n'avais pas assez de temps pour travailler, pour faire des choses. Voilà. D'accord ? Voilà. Alors je dis à Michel, voilà, j'en ai marre, il faut que je réduise mes temps de sommeil. Elle dit, mais t'es fou. Je dis, non, on m'a appris à faire. Il y en a qui peuvent dormir en quelques secondes, ils peuvent dormir. Quelqu'un, je ne sais plus qui, prenait une cuillère, il dormait, il la laissait tomber. Quand il est tombé sur l'orteil, il se réveillait. Il avait dormi. C'est rapide, hein. Donc j'ai dit, oh waouh, là je vais le faire, je vais faire pareil. Parce que ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, hein, on rentre dans le sommeil paradoxal. Et j'ai essayé et je me suis détraqué. Voilà. Bon, et Michel a dit, ah, c'est bien fait, c'est bien fait. Ouais, moi j'aime bien essayer, hein. Voilà. J'aime bien essayer. Pour réduire, parce qu'il y en a qui dorment 4 heures et ils sont en pleine forme, hein. Voilà. Mais bon, c'est aussi des natures, hein. Il y en a qui ont besoin de plus que 8 heures de sommeil ici? Plus que 9 heures? Plus que 10 heures? Non, mais Les enfants, ils ont besoin de 12 heures, hein, voilà, pour se ressourcer. Il y en a qui sont des enfants ici. Non, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Bon. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai jeté l'éponge, j'ai dit, bon, mais Seigneur, voilà, j'ai que tant de temps, bon, bah, je fais ce que je peux, puis c'est tout, voilà. J'en suis arrivé à être plus sage. Parce que je compte sur le Seigneur pour faire le reste. Tant pis, hein. Je fais ce que je peux et le Seigneur fait le reste. Ceci pour dire, je reviens à mon sujet, de s'endormir. Hein. On s'endort spirituellement, régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'on a une expérience du Seigneur. Hein. Quand le pasteur Nicolas Guillet est venu, bon, je le découvre, hein, je ne le connais pas comme vous, hein, les Schmitt. Et puis, quand je l'ai entendu, je dis, waouh, il a eu la même expérience que moi de rencontrer le Seigneur. La même rencontre, la même façon, etc. Mais chacun rencontre le Seigneur à sa façon. Donc on a une expérience qui nous marque parce qu'on rencontre le Christ. On rencontre quelqu'un qui est vivant. Moi, je savais qu'il existait, mais je ne l'avais pas rencontré. Je ne l'avais pas touché, je ne l'avais pas... Voilà. Et cette expérience, bien sûr, est un réveil spirituel. Mais... au fur et à mesure que les années passent, ce réveil, il s'estompe parce que on n'a pas tout le temps ces expériences-là avec le Seigneur. On a des expériences qui sont plus éloignées parce que le Seigneur se manifeste pas dans le miraculeux tout le temps. Voilà. Et donc là, c'est difficile pour l'Église parce qu'elle s'endort. Et régulièrement, elle y réveille. Alors il y a encore, je crois c'est un de ta famille, j'ai discuté hier, il m'a posé des questions sur les évangéliques, hein, les évangéliques par rapport voilà, aux protestants traditionnels, tout ça. Et j'ai pu parler avec lui, je dis non, c'est des réveils. Le mouvement évangélique, c'est des réveils, c'est pas un changement de doctrine, c'est simplement se réveiller. Hein. Et il y a eu des réveils tout au long de l'histoire. L'église primitive, elle est née à la Pentecôte, donc tout le premier siècle était réveillé par les apôtres, par voilà. Et ensuite, après, elle s'est endormie. Et elle s'est réveillée, ce qu'on appelle la période des pères de l'église. Et en France, vous avez quelqu'un qui est un père de l'église, qui est Saint-Martin. Il y en a qui connaissent Saint-Martin. C'est le nombre de villages, de villes. Qui ont le plus, c'est Saint-Martin. Il y a un club Saint-Martin d'ailleurs, des villes Saint-Martin. Je ne sais pas combien il y en a en France, il y en a des milliers. Voilà. Parce que Saint-Martin a bouleversé la France. Si vous lisez l'histoire de Saint-Martin, c'est incroyable. Les miracles, les puissants, la puissance qui a traversé cet homme. C'est pas étonnant qu'il a marqué notre pays. Ensuite, après, pendant tout le Moyen-Âge, ça s'est à nouveau endormi. Il y a eu les schismes, hein, l'Église catholique, l'Église orthodoxe. Et à la réforme, l'Église protestante, c'était simplement des catholiques qui voulaient réformer l'Église, pas simplement pas sortir de l'Église, mais la réformer. Ils ont reposé des fondements, ce qu'on appelle les fondations, les fondements de la réforme. Et nous sommes tous d'accord. Parce que ces fondements sont les mêmes que l'Église primitive, que les pères de l'Église, que les réveils. Voilà. Et on n'a rien à ajouter ni à retrancher. Par contre, l'Église réformée ou l'Église luthérienne, qui sont à la base de la réforme protestante, s'est rendormie aussi. Parce que tout le monde se rendort. Hein. Nous, on a tous tendance à s'endormir. Et donc, il y a eu des réveils, d'autres réveils, les réveils moraves, les réveils de Wesley, les méthodistes, les réveils, etc. Et ces réveils sont à la base des églises évangéliques. Donc, nous, on est protestants, c'est marqué devant, évangélique. Évangélique, c'est simplement, on veut être réveillé. Est-ce que vous êtes réveillé ce matin? Est-ce que vous voulez être réveillé par le Seigneur? Ou vous avez peur? Non, Seigneur, laisse-moi dormir. Non? Il y en a qui veulent dormir? Alors, c'est pas la bonne place ici, hein. Il faut rester au lit le dimanche matin. Non, si on veut être réveillé, il faut s'attendre à ce que le Seigneur nous réveille. Amen. Voilà, c'est ça, être évangélique. Seigneur, réveille-moi. Dis à ton voisin, Seigneur, réveille-moi. Voilà. Hein, si vous voulez être réveillé, réveillez-vous. Vous qui dormez d'entre les morts. Amen. Voilà. Donc je vais vous parler d'un réveil ce matin, un réveil au Madagascar, hein, parce qu'on est là pour découvrir le Madagascar. Mais auparavant, je voudrais juste donner quelques indications sur le texte qu'on vient de lire avant de vous parler d'un des réveils, parce que le réveil à Madagascar a connu 4 réveils. au XXe siècle, donc c'est important. Hein. Et voilà, nous, on a eu un réveil. C'est quel réveil qu'on a connu en France ? Hello ? Vous dormez ? Pardon ? Quel est le plus grand réveil qu'on a connu en France ? Pardon ? Les Huguenots, oui. Mais au XXe siècle, hein. Je reste au XXe siècle. XXe siècle. Pardon ? Les pentecôtistes, oui. Il y a que Marie-France qui sait ça ? Alors, regardez dans vos livres d'histoire. Hein. C'est le réveil pentecôtiste. Hein. Réveil pentecôtiste, aujourd'hui, les églises évangéliques... Le plus grand nombre, c'est les pentecôtistes, parce que, au travers de Scott, de Nicole, bon, Michel a connu ces gens-là, c'est au début, enfin, la fin de ces ministères, mais nous commençons avant la guerre. Et ce réveil pentecôtiste, réveil de la Pentecôte, a donné naissance à vraiment un réveil spirituel. Alors? Non, vous êtes avec moi? C'est l'histoire. Ok. Donc j'en reviens au texte. Ce texte de Jean 16 exprime non pas ce que le Saint-Esprit fait en nous, mais ce qu'il fait dans le monde, donc dans le réveil, dans la société. Tout d'abord, il convaincra, le Saint-Esprit convaincra le monde à propos du péché, de la justice et du jugement. Cette idée de convaincre, est importante à retenir. Elle renferme plusieurs choses qui appartiennent à Dieu. D'abord, le droit d'examen. Dieu a le droit de nous examiner. Vous êtes d'accord ? Vous laissez Dieu vous examiner ? Il permet de nous accuser, au sens d'accuser de péché, de réprouver. Il a la capacité de prouver les accusations qui sont faites. Et il a la compétence de convaincre. C'est l'autorité de rendre un jugement et de condamner. C'est la puissance de punir. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Cependant, cette conviction divine n'aboutit pas forcément à la condamnation, car elle est elle-même un appel à la repentance. Un appel qui doit être entendu par chacun de nous, et je pense qu'il l'a été puisque vous êtes là ce matin. Parce que c'est par grâce que l'Esprit va convaincre. C'est par grâce. Non pas pour nous condamner, mais il va nous accuser pour nous sauver. Amen. Pour accepter celui qui a pris notre place dans cette cour de justice. La deuxième chose, donc, convaincre ensuite le monde. C'est dans le sens de l'humanité séparée de Dieu, organisée par Satan sur la base de la révolte. Rappelez-vous ce que Nicolas Guillet a dit sur le royaume. C'est pas le monde qui est mauvais. Dieu a créé le monde. Il a créé les gens. L'ensemble des gens sur la terre, c'est le monde. Mais c'est l'esprit. L'esprit de la révolte, l'esprit de Babel, l'esprit de se rebeller contre Dieu. C'est cet esprit et qui vient, lui, de... Il vient d'où ? Il vient d'où, de cet esprit ? Il vient d'où ? Pardon ? Oui ? De Satan. N'ayez pas peur de dire son nom. Satan. Celui qui se révolte contre Dieu. Le rebelle. Hein. Et regardez dans le jardin d'Éden, l'esprit n'est pas venu de l'homme et de la femme. Bien sûr, il y avait un creuset. Mais c'est Satan qui est venu en personne pour les séduire. Et c'est Satan qui est le prince de ce monde et qui continue à nous séduire. Séduire, ça veut dire séparer d'eux et envoyer vers d'autres directions. Hein. Ça vient du latin. Je n'ai pas fait de latin, mais ma femme m'en a fait et me rappelle. Donc c'est envoyer à l'écart d'eux, voyez, à l'écart de la parole, à l'écart de l'obéissance à ce que Dieu a dit, à la loi de Dieu. Donc, le monde, c'est ça. C'est, c'est cette base égoïste de la révolte contre Dieu. Il va nous convaincre à propos du péché, de la justice et du jugement. Donc ce sont trois choses qu'il va convaincre. Tout ce qui est nécessaire pour séparer l'homme religieux de ces trois catégories. Parce que l'homme qui est religieux, Jésus a dû avoir ce conflit avec les hommes religieux. C'est les hommes religieux qui l'ont amené sur la croix. Hein. C'est eux qui ont conduit le peuple à la révolte contre Dieu. Pourquoi ? Parce que ces trois choses font partie de ce voile qui est sur le monde religieux. Ces trois choses, c'est le péché. C'est que l'homme naturel pense qu'il est juste, alors qu'il est pécheur. Donc il faut que le Saint-Esprit convainque quelqu'un qu'il est pécheur, alors qu'il pense être juste. Voyez-vous ? Et c'est pour ça que c'est toujours une œuvre de l'Esprit. Il faut prier pour les gens. Si vous témoignez, c'est qu'une partie de ce que Dieu vous demande. Il faut prier pour eux, pour que la parole puisse entrer dans leur cœur et qu'ils soient convaincus de pécheurs, être pécheurs. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot péché est un mot tabou aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le remplacer. Bon, on peut peut-être le dire avec des fleurs, mais à un moment donné, il faut sortir ce mot. Hein, parce que c'est la racine. Jésus est venu pour sauver des péchés. Voilà. Le péché, c'est la désobéissance. Après, on peut l'expliquer. Mais voilà. Mais l'homme religieux ne veut pas entendre parler de ça parce qu'il se sent juste. Regardez les pharisiens. Eux, ils avaient une loi qui allait au-delà de la loi biblique. Dans le Talmud, ils ont rajouté un livre pour être encore plus exigeants que la parole de Dieu. C'est formidable, ça. Ah, d'accord ? Ben, c'est ça qui les a rendus aveugles, parce qu'ils pensaient être plus justes que Jésus. Oui ? Tout simplement parce que, vous savez, ça se passe de manière très insidieuse. Jésus, il acceptait les publicains, c'est-à-dire c'est les gens qui trafiquaient avec l'argent, comme Zachée. Il acceptait les prostituées. Voilà. Et bien sûr, les hommes religieux ne faisaient pas ça. Attendez, non. On va pas rencontrer des prostituées, on va pas rencontrer des gens de mauvaise vie, etc. Vous voyez ? Donc ils étaient justes. Et ce qui fait qu'ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas que Jésus, lui, était saint. Parce que lui n'avait pas peur. Il côtoyait tous ces gens-là. Vous voyez ? Donc il faut une conviction pour montrer que nous sommes pécheurs. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il nous convainc de justice. C'est quoi la justice ? Et pourquoi Jésus a dit « Je m'en vais vers le Père ». Pourquoi la justice ? Pourquoi doit-il nous convaincre de justice ? Parce que là aussi, naturellement, nous n'avons pas la conscience de la véritable justice. Oh ! Le français est très à cheval sur la justice. Hein, très, très à cheval sur la justice. Mais regardez, je vous donne juste un exemple. Vous avez peut-être étudié, heureusement que l'école est là pour nous apprendre certaines choses, mais c'est bien aussi d'apprendre après l'école, de relire un petit peu. La Révolution française, vous savez comment ça s'est passé, la Révolution française ? Vous rappelez cette histoire, cette période ? Si on ne la connaît pas, on ne comprend pas beaucoup notre civilisation. Qu'est-ce qui s'est passé, la Révolution française ? Entre autres, pardon ? Oui, l'égalité, mais comment ça s'est traduit ? Oui, alors ça, les chrétiens, ils savent ça. Mais il y a d'autres choses qui sont très importantes à comprendre, le mécanisme de la justice. Pourquoi il y a eu la Révolution française, entre autres ? Elle ? Pardon ? Oui, c'est les privilèges. Il y en a qui se gonflaient la panse, comme on dit, hein, pour être vulgaire, et puis d'autres qui, les paysans, qui, hein, parce que la France était à 95% paysanne, hein. Bon, encore mes grands-parents étaient paysans, et vous aussi certainement. Donc il y avait une injustice énorme. Les privilèges, les nobles et tout ça, voilà. On coupe les privilèges, on coupe la tête des nobles, voilà, ok. En Angleterre, c'est passé autrement parce qu'il y a eu les réveils spirituels, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en France, on a coupé la tête des nobles. Aujourd'hui, il n'y a pas de nobles. Bon, il y a des nobles de nom, mais les vrais nobles, voilà. Et on pensait établir la justice. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les révolutionnaires ? Robespierre, par exemple. Vous connaissez l'histoire de Robespierre ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Hey ! La terreur. Vous avez entendu parler de terreur? Des milliers de gens étaient. On les a mis la guillotine sur la place de Paris. Et le sang, il coulait dans les ruisseaux et descendait dans la Seine était rouge. Vous connaissez cette histoire? C'est l'histoire de France. Donc la justice est passée par le sang. Voyez-vous? Alors on essaie d'occulter un peu la terreur. Oui, bon, c'est des erreurs. C'est des erreurs, d'accord. Mais bon, ceux qui ont passé, hein, ils ont payé de leur prix. Hein, ils n'ont rien fait de mal. Simplement parce que on est allé tellement loin dans la justice qu'on a utilisé. Est-ce que Dieu, est-ce qu'il nous fait mourir? Est-ce qu'il te fait mourir parce que tu es injuste? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son propre fils. Il a substitué notre injustice par la justice de Jésus à la croix. Et là, il faut une révélation du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus est parti vers le Père, parce qu'il a accompli la justice. Il l'a fait. Mais les gens, quand vous parlez de Jésus, ah ben non, j'ai pas besoin de Jésus. Ben oui, mais parce qu'ils sont pas conscients de la véritable justice. Allô? J'ai capté votre attention là. Voilà. C'est ça la justice. Le Saint-Esprit convainc de la véritable justice. Pas d'une justice humaine, pas d'une justice imparfaite, mais la justice. Amen. Dans l'amour. Et troisièmement, il nous convainc à propos du jugement. De quel jugement est-il question? Pardon? Ben, bien sûr, du diable. C'est marqué. Le jugement du diable. Quand est-ce que le diable a été jugé? Quand est-ce qu'il a été jugé? À la croix. Quand est-ce que les alliés ont gagné la guerre de la troisième guerre mondiale? Lapsus. Deuxième guerre mondiale. Quand est-ce quel est le jour où ils ont gagné? Le 6 juin 1900. C'est précis. Il y a même une heure. Il y a même une heure. Voilà, vous avez suivi les événements là? On a rappelé les choses. Hello? On a gagné la guerre. Le jugement a été prononcé sur l'Allemagne hitlérienne le 6 juin 44. Hello? Ah, il y en a qui ont payé de leur vie, hein. Des milliers de gens. Mais là, le jugement a été prononcé et on a gagné la guerre. Le combat a duré combien de temps? Un an, au moins un an. Jusqu'à ce qu'il y ait l'armistice, que les nazis ont arrêté d'essayer de reprendre le dessus. Et là, aujourd'hui, c'est pareil. Dans la guerre spirituelle, Satan a été vaincu à la croix, il y a 2000 ans. Et il continue à bouger la queue, à essayer de faire du mal, à vous faire du mal et tout ça. Mais il est vaincu. Dis à ton voisin, il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Et si vous êtes en Christ, si votre identité est en Christ, vous avez la victoire sur Satan. Amen. Amen. Donc le jugement, le Saint-Esprit doit nous convaincre que le jugement était prononcé sur Satan et que même s'il vous fait chuter, eh bien vous pouvez vous relever. À condition de vous repentir. Allô? Même en étant chrétien, voyez. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en... Amen, amen. Donc le Saint-Esprit convaincra le monde à propos du péché, de la justice et du jugement. Amen. Alors quelles sont les conclusions? Il y en aura beaucoup à tirer. Je voudrais juste en tirer une, qui va en lien d'ailleurs avec ce qu'a dit Olivier. Conclusion pratique de ça. C'est que dans ce passage qu'on vient de lire, ça résume l'action du Saint-Esprit sur une échelle du monde, sur la vaste échelle du monde. Une action qui est cachée, mystérieuse, qui se passe dans les cœurs et aussi dans l'Église, parce que souvent dans l'Église on se rendort, il faut se réveiller. Mais il faut que nous connaissions que la seule autorité qui existe, c'est Dieu. C'est Dieu qui a l'autorité parce que il a vaincu Satan. Le combat spirituel est gagné parce que Jésus est venu sur la croix. Et là, Satan a été vaincu pour l'humanité, je parle. Je ne parle pas pour Dieu dans l'univers parce que, voilà, ça c'est son rôle. Mais pour l'humanité, c'est Jésus qui nous a rachetés, qui nous a fait entrer dans ce qu'on appelle la rédemption, une nouvelle humanité dans laquelle nous pouvons être vainqueurs. Et c'est pourquoi il nous faut rester humbles. Olivier l'a dit à sa façon, et Bruno l'a dit ce matin, et je le redis une troisième fois, jamais 203. Il faut rester humble. Je veux dire par là quoi ? Je veux dire par là que nous ne pouvons pas, ce qu'on appelle, un terme que j'appelle pas, que je n'aime pas beaucoup, bien que je comprends ce qu'on veut dire, gagner des âmes. J'aime pas beaucoup parce que ça me fait penser à voilà, gagner au loto. Gagner au... Bon, c'est peut-être mal ce que je pense, mais voilà. J'aime pas trop ce mot-là, parce que gagner des âmes, c'est comme si on s'attribuait les âmes qu'on gagne. Voyez. Or, le seul qui peut gagner des âmes, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Mais restez dans le sujet, là. Le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. C'est lui qui convainc les âmes. Parce que Dieu, il est Dieu, mais le Saint-Esprit, il agit dans le monde. On vient de le voir. Donc, le seul qui peut gagner entre guillemets des âmes, c'est le Saint-Esprit. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est gagner des âmes? Qu'est-ce qu'on fait? Parler. Parler de lui. Et rester modeste pour ce qui est de les gagner. C'est le Saint-Esprit qui les gagne. Parce que si nous les gagnons, oh là là, ouais, je ne voudrais pas être dans une église, un pasteur d'une église qui gagne des âmes comme ça. Parce que je remplirais l'église de quoi? Bah, de tout ce qu'on a connu depuis 2000 ans, de multitudes. Les églises qu'on appelle de multitudes, c'est ceux qui baptisent les enfants parce que c'est facile. Un enfant, hein, Elodie, on peut lui faire faire ce qu'on veut. Je le prends, je le baptise, il est baptisé. Il va le savoir plus tard. Ah, je ne savais pas, bon, ok. Voilà. Le baptême, c'est un acte conscient. Je témoigne de l'expérience que j'ai eue avec Jésus, et je me fais baptiser et j'obéis. Vous voyez ? Donc, église de multitude, tout le monde rentre dans l'église, du moment qu'il y a des intérêts de toutes sortes, bon, je ne les nomme pas. Non. Moi, je veux une église de confessants, qui confesse Jésus-Christ. Amen. C'est ça l'église. Parce que c'est celle-là qui va conquérir, qui va gagner contre Satan. Le combat spirituel. Amen. Et c'est, nous devons être des conquérants de ceux qui gagnent pour conquérir le royaume de Dieu. Amen. Alors, je vais passer à l'expérience d'un réveil spirituel. Comme je vous l'ai dit, Madagascar, en une centaine d'années, il y a eu 4 réveils spirituels. Donc ce pays a connu vraiment la visitation de Dieu. Il continue à le connaître parce que le premier réveil a eu lieu en 1894, donc juste avant l'an 1900, hein, donc 20e siècle. En 1927, un deuxième réveil. En 1939, un troisième réveil. Et en 1941, donc avant la guerre, pendant la guerre. Et la personne dont je vais vous parler, qui s'appelle Nénilav. Alors, j'ai appris que Nénilav veut dire la grande mère. Hein, la grande mère. Nénilav est mort en 98. Pas vieux, 98. Alors je vais vous lire un peu ce que l'église luthérienne, hein, Madagascar, écrit sur cette histoire. Et vous pouvez voir que nous aussi, on a besoin d'un réveil spirituel. Amen. Et je pense que les Malgaches sont encore plus sensibles à ce réveil, puisqu'il est plus proche que nous. Où le réveil de Pentecôte a commencé en début de siècle, vers 1925-30. Quoi. Germaine Volahavana, qui s'appelle Nénilav, donc mère grande, a donné naissance au mouvement de réveil qui a lieu dans une ville, Ankara Malatya, c'est ça? Donc Nénilav était de son nom de naissance. C'est de son nom de naissance, Volahavana. Son père, Maladi, de la tribu Antai Moro, était de descendance royale, à la fois roi et devin, guérisseur. Il était renommé et respecté dans sa région. La mère donc de Nénilava s'appelait Vao. Excusez-moi des noms, hein, parce que je les écorche, mais je vais d'ailleurs les sauter quand il faut. Parce que... ils sont un peu longs des fois. Ils habitaient à Mandroudra, canton de Lokombi et district de Manakara. Elle avait plusieurs sœurs et frères et était la troisième parmi les quatre sœurs. Pendant toute son enfance, elle a grandi dans un milieu païen, mais elle n'appréciait pas du tout les activités du guérisseur de son père. Quelquefois, elle le dénigrait devant ses clients, qui suscitait sa colère, et lui disait qu'elle n'aimait pas ses dieux, qui avaient toujours besoin de quelqu'un pour les interpréter. Aussi disait-elle, est-ce que Dieu est visible ? Elle voulait rencontrer le Dieu Tout-Puissant, s'il existait. Elle n'avait pas envie de jouer avec les autres enfants de son âge. Elle préférait rester seule pour maintenir ce désir constant. Vers l'âge de 10 ans, c'est petit, hein, Dieu commença à se révéler à elle, avant même qu'elle ne soit chrétienne. Elle commença tout d'abord avec des songes. Un grand homme, vêtu en blanc, l'emmena tous les soirs dans un grand bâtiment en pierre. Il lui lavait les pieds et les essuya avec une serviette. Puis, l'étendit sur un lit et la berça jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis, à l'aube, il la raccompagna chez ses parents. Dans un autre songe, elle se vit attrapée dans un filet et emportée au ciel. Ces deux songes lui revinrent régulièrement jusqu'à l'âge de 12 ans. Après, les songes cessèrent et elle entendait constamment une voix qui appelait son nom vers le milieu du jour. Elle courut vers ses parents pour voir si c'était eux qui l'appelaient. Cela les fit rire et la prirent pour une folle. Elle alla donc dehors pour trouver un refuge tranquille sous un arbre, et dont elle nettoya les alentours, et elle passait son temps à pleurer ou à penser à ce Dieu qu'elle ne connaissait pas encore. Elle avait l'habitude de s'y rendre quand elle avait l'âme en peine. Quand elle a eu 15 ans, on lui fit plusieurs offres de mariage, mais comme elle n'avait jamais songé au mariage, elle refusa. Ses parents, confus par ses refus répétés, l'envoyèrent habiter chez sa sœur. Elle n'y passa qu'une année, préférant rentrer au village, afin de ne pas être tentée par la vie citadine. Trouvant le comportement de leur fille différente des autres enfants, maladie, son père consulta un oracle, donc un devin, et il fut bouleversé par la réponse. Là, c'était un vrai devin, ce qui a des fous. En effet, il découvrit qu'un esprit supérieur, un dieu suprême, habitait sa fille. C'était elle qui était la reine. Et lui, son papa, qui était roi, l'esclave. Ce qui lui semblait complètement illogique, puisque c'était lui le roi. Il fut convaincu que le dieu de sa fille était le dieu juste et le dieu suprême. Qui était supérieur aux autres dieux. Et dorénavant, donc le père, maladie, il abandonna ses idoles et ordonna à sa famille d'obéir au dieu de Volahavana. Il mourait, une prophétie qui s'accomplit quelques années plus tard. Alors, on revient à cette sœur en Christ, donc Neni Lava. Elle refusa continuellement les demandes de mariage qui ont été proposées. Et ses parents l'ont obligée à marier Sirefo, c'est un catéchiste de 61 ans, veuf et père de plusieurs enfants et de sa première épouse. Elle dut suivre les cours de catéchisme avant de recevoir le baptême nécessaire pour son mariage religieux. 2 semaines lui suffirent pour apprendre convenablement les leçons du catéchisme. Elle fut baptisée en 1935 par le pasteur Ramasivelo et elle a pris le nom de Germaine, son nom de baptême qu'elle a gardé après. Après son mariage, elle reçut la bénédiction de l'Église et ils partirent s'installer donc à Ankara Malazza, c'est là où il y a eu le réveil, où son mari a continué à instruire sur la religion chrétienne. Dieu appela cette sœur à son service quand elle était âgée de 20 ans. Une des filles donc de Sirefo était malade, possédée par un esprit maléfique. donc une de c'est sa sœur. Le catéchiste, donc son mari maintenant, puisqu'ils sont mariés, il était présent et il essayait de l'exorciser, donc de chasser le démon. Et voilà, Vanna, il s'affairait à allumer le feu pour la cuisson, quand soudain une voix lui commanda instamment de se lever et d'aller voir l'enfant pour prier pour l'enfant. Elle hésita, mais une force invisible la bouscula et la plaça face à la jeune fille qu'elle étreignit dans ses bras. Et là, voilà, Vanna lutta longtemps avec elle, et finalement l'esprit maléfique qui était dans la jeune fille est parti. Nous allons partir car celui qui est plus puissant que nous arrive. Et les esprits sont partis. Et le miracle eut lieu, la jeune fille est guérie et retrouva ses esprits. Ce miracle a eu lieu le 1er août 1941. Et la nuit du mercredi au jeudi, le 2 août, Jésus dit aux trois personnes présentes pendant la guérison: « Levez-vous, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, chassez les démons, engagez-vous et ne repoussez pas le temps. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié parmi les tribus de Matitanana et d'Amphobive. Je vous ai choisi pour cette mission, je vous ordonne de l'accomplir. » Les deux catéchistes qui étaient là avec elle acceptèrent facilement cette mission, mais elle refusa en disant qu'elle était encore trop jeune et qu'elle ignorait les Écritures saintes et ne pouvait trouver les mots justes pour prêcher. Cependant, Jésus persista en disant « Lève-toi, annonce partout la bonne nouvelle. » Alors elle se soumit et fit un marché avec Jésus. Elle lui demanda qu'il lui donne à l'avance ce qu'elle devait dire. Et Jésus était d'accord. Alors, son mari, le catéchiste, avait déjà commencé sa mission d'évangéliste quand elle se joignit à son travail. Des individus du groupe de Pétera la jalousaient, lui donnèrent le surnom moqueur de Néni Lava, qui signifie mère grande, pour la ridiculiser parce qu'elle était haute, alors que les malgaches souvent sont petits. Voilà. Donc c'était un sobriquet, comme les premiers chrétiens, on les appelait chrétiens, des petits Christs. Et donc elle a gardé ce surnom. Son vœu était exaucé, car on la connaissait partout par ce nom, à travers sa mission et ses miracles. Et beaucoup de gens ne la connaissaient que par ce nom, donc Néni Lava. Pour sa formation, Jésus n'oublia pas sa promesse et lui accorda le don de parler en langue, puis lui apprit les saintes écritures. Nénilav passa 3 mois pour apprendre comment parler les langues qu'elle utiliserait ultérieurement pour apprendre les saintes écritures. C'était Jésus lui-même qui l'enseignait. Il lui apprit d'abord les 12 principales langues parlées dans le monde, donc elle parlait 12 langues. Il les utilisa ensuite pour converser avec elle. Jésus conversait avec elle dans ses langues. Et en dehors de cela, elle parlait couramment chacune de ses langues. D'ailleurs, Bruno m'a dit tout à l'heure, quand je lui ai parlé de ça, il a dit oui, en Allemagne, elle prêchait en allemand, alors qu'elle ne connaissait pas l'allemand. Mais Jésus lui a appris l'allemand. Et encore il y a quelques années, avant de sa mort. Nénilav employait seulement son don de langue pour parler avec Jésus comme base de son enseignement. Au début de ce ministère, elle parlait souvent avec Jésus en langue, mais plus tard, elle lui demanda de ne pas utiliser ce don quand elle se trouvait devant les gens, de peur que les gens mal intentionnés en profitent pour l'imiter et l'utiliser à d'autres fins. Pour l'enseigner, Jésus utilisait un tableau blanc, écrivait avec des écritures qui étaient blanches aussi. Il écrivait du haut vers le bas, comme font les Chinois. Les cours se passaient dans un endroit tranquille, soit à la maison ou dans la forêt. Le tableau accroché au mur ou pendu entre les branches. Parfois, Jésus utilisait un grand livre avec des pages très fines sur lesquelles il écrivait avec des écritures blanches. Pour pouvoir les lire, Néni Lava s'agenouillait et s'abaissait sur le sol. Et dans ses cours, Jésus lui soufflait les mots à l'oreille. Et quand son mari la voyait agenouillée à la maison, il croyait qu'elle était en prière alors qu'elle parlait avec Jésus. Pour l'apprentissage des saintes écritures, Jésus la fit monter 7 fois au ciel en l'espace de 3 jours. Jésus lui annonça qu'elle allait mourir le vendredi à 11h. Dès lors, on prévenait les fidèles des paroisses environnantes. Tous ceux qui étaient disponibles arrivèrent. Les paroisses éloignées ont envoyé des représentants. Et le pasteur de sa paroisse était présent. Il y avait des lectures bibliques et des prières qui se succédaient. Nénilav se coucha sur un lit drapé de blanc en attendant le moment prévu. On couvrit son corps d'un drap blanc à l'exception de son visage qu'on laissa découvert. Et l'ascension de son âme se fit doucement. Les gens présents entouraient son lit, continuant jour et nuit à prier, à chanter pendant 3 jours, et en attendant son retour. Trouvant le temps long, les parents découragés pensaient qu'il ne reviendrait plus, mais les chrétiens présents jeûnèrent jusqu'à son retour. Les 3 jours écoulés, Nénilav revint le dimanche à 8 heures. Une fois descendue du lit, elle prêcha la parole de Dieu selon 1 Corinthiens 15, 55. « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Jésus lui apprit les 4 évangiles. Jésus annonça ensuite à Nénilav qu'elle devait livrer bataille avec le dragon afin de l'aguerrir, car sa mission ne serait d'aucun répit. Ce combat mortel dura 3 jours successifs et Jésus se trouvait toujours à ses côtés. Au 3e jour du combat, elle vaincut la bête au nom de Jésus. Après cette victoire, elle jeûna pendant 2 mois et demi en mangeant seulement des petites boules blanches qui ressemblaient à ce qu'on mange à la Seine. Au début de sa mission, elle avait 22 jeunes gens qui travaillaient avec elle. Elle commença sa campagne d'évangélisation dans sa région. Son mari, le catéchiste, travaillait avec elle jusqu'à sa mort en 1949. Par la suite, Nénilav sortit de sa région, invitée par les églises, tout d'abord à Antsirab, où se trouvait le siège central des œuvres missionnaires luthériennes norvégiennes à Madagascar et ses alentours. Puis elle monta vers le nord, dans la capitale Antananarivo et de ses périphéries. De là, elle partit répondre à de nombreuses invitations dans plusieurs autres régions, Tamata, Majanga, même aux îles Comores. Et en 1973, elle partit à l'étranger à l'invitation de plusieurs églises. Au cours de ses visites, elle eut l'occasion d'apporter son témoignage à la parole de Dieu devant diverses assistances. Accompagnée de ses amis, de ses collaborateurs, Nénilav avait comme habitude de travailler avec les pasteurs des églises. Là, elle se trouvait des gens qui venaient de partout pour prier, se faire soigner, être exorcisés, d'autres qui emmenaient leurs malades. Des miracles se produisirent, les aveugles recouvrirent la vue, les malades guérissaient, les problèmes personnels familiaux étaient résolus. Son principe était le même partout où elle allait: prière, prédication de la bonne nouvelle, exorcisme, imposition des mains, accompagnée de paroles de réconfort et tirées des versets bibliques. En 1973, le roi de Norvège lui demanda de décrire son travail. Et elle lui dit: « Je prêche l'évangile, je soigne les aliénés mentaux, j'éduque les jeunes délinquants, j'élève des nourrissons et des vieillards. » Ainsi, le TOBI, le centre de réveil, donc s'appelle TOBI Ankara Malaza, se transforma en centre d'accueil. La plupart des gens, après leur guérison physique ou morale, s'y installèrent, car ils ne voulaient plus rentrer chez eux. Et le centre se dota d'un petit à petit d'une école pour les enfants, un dispensaire, l'eau potable avec l'installation de bornes fontaines, donc sur le bord de la route, l'électricité vint plus tard. Des annexes du TOBI, en Karamalaza, se formèrent un peu partout dans l'île, comme celui de Amboibao, dans la capitale, dans les années 1980, et en France, dans le village de Pourru-Saint-Rémy, situé à Charleville-Mézières, dans les années 90. Vous connaissez Charleville? Donc elle a créé un centre là. On peut y aller si on veut. En 1975, ses tournées s'estompèrent peu à peu, et elle s'installa la plupart du temps dans la résidence construite dans le centre de réveil. Par le ministère de Nénilav, qu'il soit malgache, qu'il soit européen, qu'il soit africain, beaucoup reçurent Jésus et furent délivrés de l'emprise du péché et de l'esclavage du diable pour connaître une vie nouvelle et la paix à la lumière du Saint-Esprit. D'elle-même, Nénilav ne se proclama jamais prophétesse, mais ses actes et ses paroles de vérité ont attesté de ses dons. Nénilav avait des enfants adoptifs qu'elle recevait de leurs parents biologiques après des vœux exaucés que ceux-ci avaient fait à Dieu, qu'elle se préoccupait non seulement de leur éducation spirituelle, mais comme tous les parents, elle se souciait aussi de leur instruction pour les parfaire à tous les niveaux. Elle avait aussi partout dans l'île, ainsi qu'à l'extérieur, des enfants spirituels qui s'attachait à elle, qu'elle aimait, qu'il portait en prière. Les vœux d'enfance de Nelila furent exaucés. Elle put rencontrer ce Dieu Tout-Puissant qu'elle désirait tant et faire connaître sa puissance à travers sa mission. Son désir de monter aux cieux fut réalisé. Elle mourut en 98 dans sa résidence au centre de réveil, et son corps a été transporté et enterré dans son village natal. Comme une mère remplie d'amour, elle avait donné un bon exemple et laissait à ses enfants, ses collaborateurs, la tâche de continuer dans la foi et dans l'amour du prochain, l'évangélisation et les œuvres de bienfaisance qu'elle avait commencées. Vous connaissiez cette histoire ? Moi non plus. Mais c'est grâce à cette journée qu'on a fait, hein, que je me suis penché sur cette question et que j'ai découvert. Vous le connaissiez, cette en partie. Richard était avec elle. Ceci explique cela. Ceci explique cela. Quand on est en contact avec une femme de Dieu, un homme de Dieu, qui ont ce contact, cette proximité avec Jésus, vous n'êtes pas le même. Vous n'êtes plus dans le religieux, vous êtes dans la relation. Amen. Alors, je vous prie de ne pas vous attacher aux détails de ce qu'elle a vécu. Parce que vous pourriez faire des amalgames avec des saints catholiques et tout ça, ce qui n'empêche rien au fait que les saints catholiques ont vécu des choses. Le problème, c'est qu'on mystifie les choses. Et vous savez, une des choses qui m'a beaucoup frappé, c'est que Moïse, il est mort où ? Moïse. Là, je reviens de l'Ancien Testament, je reparle de la Bible. Là. Moïse, il est mort où ? Pardon ? Dans la synagogue ? Non ? Non, je ne sais pas. Pardon ? Non, pas sur le mont Sinaï. Pardon ? Oui, bien, mont Nebo. Nebo. C'est où le mont Nebo ? Pardon ? Voilà, c'est en face de Jéricho. Si vous êtes sur le mont Nebo, vous voyez toute la plaine de Jéricho. Okay ? Le mont Nebo, c'est de l'autre côté. Voilà. Et où est-ce qu'elle est, sa tombe ? Et pourquoi il n'y en a pas ? Pourquoi il n'y en a pas ? Ah, il faut se poser les pourquoi. Moi, je me pose toujours les pourquoi. Tant que je n'ai pas les pourquoi, j'arrête pas. Ben oui. Vous voyez les saints aujourd'hui qui ont des tombes, les gens qui viennent et qui adorent, enfin, qui idolâtrent. Dieu ne voulait pas qu'on idolâtre Moïse. Qu'on aille faire un pèlerinage à Moïse, on ne sait pas, il est parti, voilà, etc. Vous voyez, la sagesse de Dieu. Les hommes sont attachés, hein, à la limite, on pourrait, voilà, pourriez faire un pèlerinage à Madagascar à cette femme-là. Mais, vous voyez, elle-même ne se considérait pas, parce qu'elle a vécu ces choses. Donc, détacher les choses qu'elle a vécues, hein, ne les amplifions pas. Elle a vécu ça parce que le Seigneur l'a choisi. Mais au travers d'elle, il a amené un réveil. C'est ça que je voulais dire ce matin. Le Seigneur utilise des hommes et des femmes extraordinaires pour amener un réveil. Amen. En France, il y a eu le réveil de Pentecôte, pentecôtiste si vous voulez, qui a donné naissance aux églises pentecôtistes. Et c'est vrai que M. Scott a été utilisé, M. Nicole aussi. M. Nicole, dans ses réunions, Michel s'en rappelait, il avait beaucoup d'ennemis, hein, spirituels. Et dans la même semaine, il y a deux prêtres à l'époque, les catholiques étaient plus fermés que maintenant, bien que certains. Bon, et des prêtres sont venus et ils ont voulu mesurer leur force. Ils ont dit : on va faire une messe noire contre toi. Et bien, tous les deux sont morts dans la semaine. Tac. On ne s'amuse pas avec l'autorité du Seigneur. Hein. Quand Dieu décide de donner son approbation sur quelqu'un, voilà, hein, on respecte l'autorité du Seigneur. Et donc, il y a dans les temps de réveil, bien sûr, des choses. Regardez Ananias et Saphira. Ils ont dégringolé devant les apôtres. C'est vraiment ce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Et là, on a du respect. Et là, on développe le respect de Dieu. Et aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup un manque de respect. Parce qu'on banalise. On banalise Dieu, on le met à notre niveau. C'est un copain. Hein ? On dit, ah oui, enfin, j'exagère, hein. Dieu, c'est un copain. Attention, Dieu n'est pas un copain. Non, non. Dieu, il est Dieu. Et il faut le respecter. Et Dieu utilise des canaux, Dieu utilise des serviteurs. Dieu utilise... Et il faut qu'on revienne à cette. Pas cette vénération, mais cette honoration. On honore, hein, on ne vénère pas. C'est-à-dire qu'on respecte ce que Dieu fait. Mais Dieu peut faire des choses puissantes. Et je voudrais qu'on prie maintenant pour le Madagascar, pour que Dieu utilise ce pays, qui continue, hein, même après la mort de cette femme, le Seigneur va renouveler d'autres. Et que dans notre pays aussi, puisse connaître à nouveau un réveil. Dieu utilisera qui il veut, hein, c'est lui qui choisit qui il veut, mais qu'il utilise des hommes et des femmes. Vous êtes d'accord avec cette demande, hein, qu'on puisse connaître à nouveau Dieu qui utilise. Mais vous voyez cette femme, si vous, bon, je connais pas tous, j'ai appris comme vous cette histoire, mais on sent qu'elle s'est pas pris la tête. Hein, elle n'a pas commencé à faire un mausolée pour elle-même, elle n'a pas commencé à faire ceci, cela, etc. Dans la simplicité, hein, elle parlait 12 langues, mais elle savait que c'est Jésus qui lui a appris. Donc elle parlait, voilà, quand elle avait besoin de parler. C'était un instrument, vous voyez, on utilise les outils que Dieu nous donne comme des instruments pour sa gloire et pas pour notre gloire, pas pour nous élever, pas pour nous édifier, pour montrer notre ego. Et là, on voit les vrais hommes et les vraies femmes de Dieu. Et c'est difficile, il faut prier pour les serviteurs de Dieu. Hein. Parce que Scott, en France, bon, il y a eu des petites difficultés qu'on a cachées, mais voilà, c'est pas évident de tenir parce que l'ennemi... vous connaissez Joyce Meyer? Elle dit New levels, new devils. C'est-à-dire que plus vous montez, plus Satan vous envoie des émissaires de plus en plus puissants. Donc il faut la prière. Il faut la prière du peuple de Dieu. Et je voudrais qu'on prie à l'instant. Seigneur, nous te remercions pour ce réveil que tu as suscité au travers de Ninilav, Madagascar. Et Seigneur, nous te prions pour que cette figure qui a marqué ce pays encore il y a quelques années puisse continuer à porter du fruit auprès des Malgaches. Que Seigneur, tu continues à ne pas que ça devienne une vénération d'une femme qui a été utilisée par toi, mais que son esprit, son humilité, Seigneur, tout ce qu'elle a apporté, puisse porter ce peuple à attendre aussi un nouveau réveil, Seigneur, qui va ramener le précédent, Seigneur, à nouveau vivre, comme tu leur as donné 4 réveils durant cette génération, ce 20e siècle. Seigneur, nous en avons connu un en France, mais Seigneur, nous en voulons d'autres. Et nous te prions, Seigneur, afin que tu souffles par ton esprit et que tu suscites dans cette génération, Seigneur, un réveil dans notre pays. Seigneur, quelque chose qui vient de toi, qui n'est pas fabriqué par l'homme, mais qui vient de toi, Seigneur, et qui puisse ébranler les fondations, Seigneur, de ce pays, qui puisse ébranler, Seigneur, la raison, Seigneur, humaniste de ce pays, de ceux qui disent qui peuvent se passer de Dieu. Seigneur, que tu puisses convaincre à nouveau, comme, Seigneur, c'est ton rôle, par ton esprit, de péché, de justice et de jugement. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Et que, merci Seigneur pour les Malgaches que tu as placés dans notre pays, Seigneur, qui ont gardé cette flamme, Seigneur, de la relation avec Jésus. Que tu les renouvelles et qu'ils puissent être des ambassadeurs dans notre pays, des ambassadeurs de réveil, Seigneur. Qu'ils ne prennent pas le même pli que nous, Seigneur, que le français. Seigneur, qu'ils ne se laissent pas séduire par l'esprit de ce monde. Mais Seigneur, qu'ils puissent être, Seigneur, de ceux qui gardent se réveille au milieu de nous pour nous aider à reprendre, à rebondir, Seigneur, et aller plus loin avec toi, Seigneur. Nous te remercions pour cette belle communauté que tu as placée au milieu de nous et que nous pouvons célébrer aujourd'hui, Seigneur, au travers de cette journée. Nous te louons, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen.